La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Après avoir considéré notre devoir envers Dieu dans les quatre premiers commandements, nous allons, à partir d'aujourd'hui, considérer la seconde table de la loi sur laquelle sont inscrits les six derniers commandements qui se rapportent à notre devoir envers nos semblables. Le premier de ces commandements se trouve en Exode, chapitre 20, verset 12. Exode, chapitre 20 et verset 12, où nous lisons « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » En tant que base de l'Alliance, les quatre premiers commandements ont tous un rapport avec la nécessité d'honorer Dieu. Et en tant que tête de la deuxième table de l'Alliance, le cinquième commandement est la suite logique, car il se rapporte à la nécessité d'honorer ses parents, lesquels, et nous le verrons dans cette présentation, ont pour devoir d'être les représentants de la divinité à leurs enfants, notamment quand ils sont jeunes. Et nous verrons aussi que l'objet de cet honneur s'étend bien plus qu'aux parents selon la chair. Mais avant toute chose, considérons rapidement le plan propositionnel de la cinquième parole de l'Alliance, lequel nous permettra de définir les deux grands axes de cette présentation. Okay? Alors reprenons le verset 12, où il nous est dit « Honore ton père et ta mère. » Okay? Là, ce que nous venons de dire là, cette partie-là, c'est un commandement. Okay? Et ce qui suit, c'est la raison. Okay? Donc le commandement est « Honore ton père et ta mère. » Et la raison, l'objet, est « Afin que tes jours soient prolongés. » Okay? Et en complément, on a « Sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. » D'accord? Donc, voilà. On a les deux grands axes, les deux parties principales de ce commandement sont le commandement et la raison. Okay? Et donc, cette étude sera divisée en deux axes principaux. La première partie sera sur le commandement et la deuxième partie sera sur la raison de ce commandement. Donc, commençons notre investigation ainsi en considérant la signification du commandement. Honore ton père et ta mère. Le terme traduit par honorer vient de l'hébreu kavad, lequel, dans ce verset, a pour sens premier honorer, respecter. Les enfants doivent donc honorer et respecter leurs parents. Et la particularité de ce respect est exprimée en Lévitique, chapitre 19, verset 3. Où nous rendons-nous? En Lévitique, chapitre 19, verset 3. Lévitique, chapitre 19, verset 3, où nous lisons que chacun révère sa mère et son père et observe mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Remarquez tout d'abord que le respect dû aux parents est sur le même pied d'égalité que l'observation du sabbat. Est-ce moi qui ai formulé les choses ainsi? Non, c'est l'Éternel, notre Dieu, qui a placé ces deux commandements dans cette clause et qui les a ainsi mis sous le même pied d'égalité. Et pourquoi cela? Ça, nous le verrons à la fin de cette étude. Tout du moins, nous le comprendrons pleinement lorsque nous arriverons à la conclusion de cette étude. Mais pour l'heure, remarquons également que le respect dû aux parents est ici caractérisé par de la révérence en Lévitique 19, verset 3. En effet, le terme, ou du moins la racine du terme traduit par « révère » lorsqu'il est dit « révère ton père et ta mère », eh bien, en Lévitique 19, 3, eh bien, elle a la même racine que le terme traduit par « redoutable » en psaume 111, verset 9, que nous avons considéré dans le troisième, lorsque nous avons étudié le troisième commandement. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Okay? » Et là, en psaume 111, verset 9, pour ceux qui s'en rappellent, la signification réelle est que le nom de l'Éternel est révéré. Okay? Ainsi, la révérence, mes amis, qui est due au nom de l'Éternel, eh bien, elle s'étend d'une certaine manière, également envers les parents. Cette révérence due au nom de l'Éternel s'étend d'une certaine manière aux parents. Également envers les parents. Et pourquoi cela? Au début du cinquième chapitre du Deutéronome, nous voyons Moïse répéter le décalogue au peuple d'Israël. Et après cela, il explique au peuple ce qu'ils doivent faire pour prolonger leurs jours en terre promise. En effet, en Deutéronome, chapitre 5, verset 33, je vous invite à vous rendre avec moi en Deutéronome, chapitre 5, et à considérer le verset 33. Deutéronome, chapitre 5, verset 33, où il est dit « Vous marcherez dans toute la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays que vous posséderez. » Et après avoir dit ça, Moïse va leur dire comment et par quelle manière ils pourront atteindre cet objectif. En effet, en Deutéronome 6, du verset 6 à 9, nous lisons la chose suivante. « Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les lieras comme un signe sur ta main et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Lorsque quelque chose est important, vous devez le dire ne serait-ce qu'une fois, n'est-ce pas? Mais lorsque cette chose est très importante, il vous faut alors la répéter au moins deux fois. Et c'est ce que nous voyons se faire en Deutéronome, chapitre 11, versets 18 à 21. Deutéronome, chapitre 11, versets 18 à 21. Deutéronome, chapitre 11, versets 18 à 21, où nous lisons « Mettez donc mes paroles que voici dans votre cœur et dans votre âme. Liez-les comme un signe sur votre main et qu'elles soient comme des frontaux entre vos yeux. Et enseignez-les à vos enfants. Et en parlant, quand tu te tiens dans ta maison, quand tu marches par le chemin, quand tu te couches et quand tu te lèves, tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes, afin que vos jours et les jours de vos enfants sur le sol que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner soient multipliés comme les jours des cieux sur la terre. À travers son serviteur Moïse, l'Éternel fit comprendre aux pères et aux mères en Israël qu'il était de leur responsabilité d'éduquer leurs enfants dans ses voies. Autrement dit, les parents sont moralement responsables de leurs enfants devant le Seigneur et sont de ce fait les représentants de Dieu pour leurs jeunes enfants. Et c'est donc en tant que représentant de la divinité que c'est en raison de cela, en raison du fait que les parents soient les représentants de la divinité, que le premier devoir des enfants doit être de révérer leurs parents. Et arrivé ici, il n'est pas difficile de s'apercevoir que respecter ses parents implique la soumission et l'obéissance. C'est du moins ce que nous révèle Proverbe, chapitre 1, versets 8 et 9. Proverbe, chapitre 1, versets 8 et 9. Proverbe, chapitre 1, versets 8 et 9. Et là, en Proverbe, chapitre 1, versets 8 et 9, nous lisons « Mon fils, écoute l'instruction de ton père et n'abandonne quoi? Point l'enseignement de ta mère. » Le terme traduit au verset 8 par « enseignement » vient de l'hébreu « Torah ». Ce qui montre que et si vous savez ce que signifie « Torah », eh bien, mes amis, cela nous montre que les instructions des parents tiennent lieu de loi à laquelle les enfants doivent obéir. Et un exemple d'obéissance notoire se trouve en Genèse, chapitre 28, versets 1 à 7. Rendons-nous dans le livre de Genèse, au chapitre 28, et considérons du verset 1 jusqu'au verset 7. Genèse, chapitre 28, et considérons du verset 1 à 7. Et là, nous lisons. Alors Isaac appela Jacob et le bénit, et lui commanda et lui dit, « Tu ne prendras point une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padanaram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-toi une femme de là parmi les filles de Laban, frère de ta mère, et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse croître et te multiplie, et que tu deviennes une assemblée de peuples, et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité à toi, afin que tu possèdes le pays où tu as séjourné, que Dieu a donné à Abraham. » Puis Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padanaram vers Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Et Ésaü, remarquez cela, et Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padanaram pour y prendre une femme, en le bénissant, et qu'il lui avait commandé et dit, « Tu ne prendras point une femme parmi les filles de Canaan. » le verset 7, et que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et s'en était allé à Paddan Aram. Jacob, mes amis, a obéi à ses parents concernant son mariage, car il ne s'était pas marié avec une infidèle. Mais tel ne fut pas le cas de son frère Ésaü. En effet, deux chapitres plus tôt, et chapitre 26 de Genèse, et au verset 34 et 35, nous voyons là quelle a été l'action d'Ésaü à cet égard. Genèse 26, verset 34 et 35. « Or Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Héthien. » C'est tout? Non, c'est pas tout. « Et Basmath, fille d'Élon, le Héthien. » Il a pris deux femmes. Deux femmes qui étaient des filles de Canaan. Donc des infidèles. Et quelle en fut la conséquence? Lisons le verset 35. Qui furent une amertume d'esprit pour Isaac et pour Rebecca. Étant entrés en alliance avec le Seigneur, Isaac et Rebecca ont conseillé Ésaü quant à son avenir, et notamment quant à son mariage. Mais ce dernier n'en a fait aucun cas. Et les conséquences furent graves, car ce n'est pas avec deux, mais trois femmes infidèles qu'il se maria. En effet, retournons deux chapitres plus loin, au chapitre où nous étions, Genèse 28. Cette fois-ci, considérons les versets 8 et 9, les deux versets qui suivent la lecture que nous avons fait tout à l'heure en Genèse 28. Genèse 28, versets 8 et 9. Ésaü, voyant donc que les femmes de Canaan déplaisaient à Isaac, son père, s'en alla vers Ismaël et prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Maalath, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, sœur de Nébajot. Il a fini par devenir polygame. Nous devons comprendre que l'enfant qui donne du chagrin à ses parents du fait de sa désobéissance n'a non seulement pas de respect pour ses parents, mais il fait également la preuve de folie. C'est ce que nous confirme Proverbes chapitre 10, verset 1. Où allons-nous? En Proverbes chapitre 10, verset 1. Où il est dit, Proverbe de Salomon, « L'enfant sage réjouit son père, mais l'enfant insensé est le chagrin de sa mère. » Et tel était le cas d'Ésaü. Il a fait pour de non-sens, mes amis, en n'écoutant pas les conseils pieux de ses parents. Et voyez-vous, dans l'une des caractéristiques des derniers jours, eh bien, est que les enfants seront rebelles à leurs parents, d'après ce que nous dit Paul en 2 Timothée 3, verset 2. Ce sera l'atmosphère des derniers jours. Et nous y sommes déjà, mes amis. Il y aura un manque de respect pour le conseil des parents. Et une autre manifestation du manque de respect envers ses parents est révélée en Exode 21, verset 15. Je vous invite à vous rendre avec moi en Exode 21 et au verset 15. Exode 21 et au verset 15, où il est dit, « Celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort. » Il se pourrait que nous n'ayons jamais frappé littéralement nos parents. Mais si nous les frappons par un comportement blessant, cela revient à la même chose, mes amis. Mais il y a plus encore. En effet, considérons le verset 17 de ce même chapitre. Exode 21, verset 17. Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Beaucoup de personnes ont une vision limitée de ce que signifie maudire. En effet, ils imaginent qu'il s'agit de prononcer la formule « maudit soit-il ». Mais vous n'avez pas besoin de cette formule pour maudire vos parents. En effet, en Deutéronome, chapitre 27, et au verset 16, Deutéronome, chapitre 27, et au verset 16, nous lisons « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. » Ici, Moïse expliquait au peuple que ceux qui méprisaient leur père et leur mère étaient des personnes sur qui reposait la malédiction de Dieu. Et mes amis, ces gens-là, lorsque vous transgressez la loi de Dieu, vous êtes sous la malédiction de Dieu. Ça veut dire que ici, mépriser ses parents, eh bien, est une manière de les maudire en fait. Ainsi, mépriser ses parents en les haïssant, en parlant légèrement à leur égard et même en salissant leur réputation. Parce que tout cela, eh bien, est impliqué dans le fait de mépriser, en fait. Okay? Le mépris peut prendre différentes formes que je vais dénoncer. Le fait d'haïr, le fait de parler à la légère à leur égard ou le fait de salir leur réputation. Eh bien, mes amis, tout cela sont des choses suffisantes pour maudire ses parents et mériter le châtiment que le Seigneur a prononcé sur un tel comportement. Mais tous ceux qui agissent de la sorte, semblent ne pas mourir physiquement. Se pourrait-il donc que la parole de Dieu ait failli à cet égard? Pas du tout. Rendons-nous en Proverbe, chapitre 20, verset 20. Proverbe, chapitre 20 et au verset 20. Et là, il nous est dit que la lampe de celui qui maudit son père ou sa mère sera éteinte dans les plus profondes ténèbres. Le verset 27 du même chapitre nous dit ce qu'est cette lampe. En effet, au verset 27, nous lisons « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, il sonde les profondeurs de l'âme. » Ainsi, celui qui méprise ses parents, ou les maudits si vous préférez, de façon mépriser et mépriser, c'est l'extension de maudire, d'après ce que nous avons vu précédemment. Ainsi, donc celui qui maudit ses parents en les méprisant, eh bien, se jette dans le vide des ténèbres spirituelles, mes amis. Et la Bible va encore plus loin. En effet, en Proverbe 30, verset au verset 17, Proverbe chapitre 30, et au verset 17. Il nous est dit que les corbeaux des torrents crèveront l'œil de celui qui se moque de son père et qui méprise l'enseignement de sa mère, et les petits aigles le mangeront. Lorsque vous comparez le verset que nous venons de lire avec Apocalypse 19, versets 17 à 21, où justement il nous est dit que des oiseaux des cieux vont venir manger la chair de ceux qui auront reçu la marque de la bête et suivi la bête et le faux prophète, eh bien, vous comprenez que ceux qui auront suivi la bête et le faux prophète, eh bien, parmi ces personnes-là, il y aura ceux qui auront méprisé leurs parents. Autrement dit, du fait qu'ils auront méprisé leurs parents, eh bien, des gens se seront préparés à recevoir la marque de la bête et à suivre les enseignements du faux prophète de la prophétie. Dont nous parle la prophétie. Et on a là, mes amis, une scène qui se rapporte à la rétribution du jugement, en fait. Ok, je dis bien la rétribution du jugement. Et que les enfants ne s'imaginent pas qu'ils pourront mépriser leurs parents en toute impunité. Quand ces derniers deviendront vieux et que eux-mêmes seront plus grands, quand ils vont quitter leur père et leur mère pour s'attacher à leur femme et devenir une seule chair, par exemple, ou la femme avec son mari pour devenir une seule chair. Ne croyons pas que cette action de quitter son père et sa mère signifie qu'on les laisse tomber et qu'on n'a plus rien à faire avec eux. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que nous dit Proverbe 23, verset 22. Proverbe 23, verset 22. Écoute ton père. C'est celui qui t'a donné la vie. Et ne méprise point ta mère quand elle sera devenue vieille. Ainsi, dans leurs vieux jours, les enfants doivent honorer leurs parents. Du moins, les parents, dans leurs vieux jours, doivent être honorés par leurs enfants et recevoir d'eux le réconfort et le soutien dont ils ont besoin. Et c'est ce que Jésus souligna en Matthieu chapitre 15, versets 1 à 9. Où allons-nous à présent? C'est cela, en Matthieu chapitre 15, versets 1 à 9. Matthieu chapitre 15, et du verset 1 à 9, où nous lisons que, allant des scribes et des pharisiens vers de Jérusalem à Jésus et lui dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent point les mains lorsqu'ils prennent le repas. » Mais il leur dit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Car Dieu a donné ce commandement, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudira son père et sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui aura dit à son père ou à sa mère, ce dont je pourrais t'assister est un don consacré à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Et ainsi, vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit « Ce peuple s'approche de moi, de la bouche et mon nom des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. » Ainsi, les scribes et les pharisiens disaient aux gens que si ce que le soutien matériel que vous pouvez apporter à vos parents, si vous le consacrez à Dieu comme une offrande, eh bien, vous n'êtes plus tenu, en fait, d'observer le commandement dans le sens de prendre soin de vos parents du point de vue matériel, de les soutenir quand ils ont besoin, en fait. Et nous avons là une perversion, mes amis. Une perversion du commandement. Ils avaient là inventé une doctrine pour conduire les gens à transgresser le commandement dans la sphère pratique. Okay? Pour que les gens ne puissent pas s'occuper de leurs parents du point de vue pratique quand ils en ont besoin. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de système de retraite. Hein? Il n'y avait pas de système de retraite à l'époque. Là. Ça veut dire que il fallait que les enfants subviennent aux besoins de leurs parents. Et oui, c'était ça. Et donc, à cause des scribes et des pharisiens, eh bien, des parents, des fois, se retrouvaient sans rien. Et pourquoi, d'après vous? Pourquoi cela? Si vous réfléchissez un peu. C'était pour s'enrichir, mes amis. C'était pour s'enrichir. Parce que, bien évidemment, vous pouvez donner plus d'argent. Et oui. Je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Mais c'est pour vous montrer que, eh bien, dans ce commandement implique justement le soin matériel, le soin que nous devons apporter à nos parents, le réconfort, le soutien dont ils ont besoin en fait. Ok. Voilà comment les enfants doivent respecter et honorer leur père et leur mère. Ou du moins, voilà comment respecter l'autorité de ses parents conduira un enfant à respecter toute autorité légitime. En effet, père et mère, ici, n'impliquent pas seulement les géniteurs et protecteurs humains de la vie physique, mais également les géniteurs et les protecteurs humains de la vie spirituelle. Cela vous paraît étrange, mais considérez la chose suivante. En effet, nous voyons que Déborah, la femme qui avait été juge, eh bien, était considérée comme une mère en Israël. En effet, en Juges, chapitre 5 et au verset 7. Juges, livre des Juges, chapitre 5 et au verset 7. Et là, il est dit, « Les chefs manquaient en Israël. Ils manquaient jusqu'à ce que je me sois levé, moi, Déborah, que je me sois levé comme une mère en Israël. » Élisée, quant à lui, considérait Élie comme son père. C'est ce que nous lisons en 2 Rois, chapitre 2, du verset 9. Au verset 12. Mais lisons à partir du verset 9 pour bien comprendre le contexte. OK? Donc, 2 Rois, chapitre 2, verset 9 à 11. Quand ils y ont passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Que j'ai, je te prie, une double portion de ton esprit. » Et Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Si tu me vois enlevé d'avec toi, il t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Et comme ils continuaient leur chemin et s'entretenaient en marchant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Et Élisée, le regardant, criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus, et saisissant ses vêtements, il les déchira en deux pièces. Mais alors, nous voyons cela se faire, ok, que une femme pieuse était considérée comme une mère, ok, et que un prophète en devenir considérait son prophète formateur comme son père. Mais que penser de Matthieu 23, verset 7? Que voulait dire Jésus en Matthieu 23, verset 7 lorsqu'il déclara « N'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est dans les cieux. » parce qu'il semblerait que cela soit contradictoire. S'il nous fallait prendre ce commandement de Jésus en Matthieu 23, verset 7, au pied de la lettre, alors les géniteurs de la vie physique n'auraient même plus eu le droit d'être appelés pères par leurs enfants. Et oui. Ainsi, pour bien comprendre ces paroles de Jésus, examinons-en le contexte en Matthieu 23 et lisons à partir du verset 1er. Matthieu 23. Matthieu 23, versets 1 à 12. Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 12. Alors Jésus parla au peuple et à ses disciples et leur dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Observez donc et faites donc tout ce qu'ils vous disent d'observer, mais ne faites pas comme ils font, parce qu'ils disent et ne font pas. » Car ils lient des fardeaux pesants et insupportables et les mettent sur les épaules des parents. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Et ils font toutes leurs actions afin que les hommes les voient, car ils portent de larges phylactères et ils allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « maître, maître ». Mais vous ne vous faites point appeler maître, car vous n'avez qu'un maître, le Christ. Et pour vous, vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites point appeler docteur, car vous n'avez qu'un seul docteur, le Christ. Mais que le plus grand d'entre vous soit votre serviteur. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Les scribes et les pharisiens étaient tellement avides d'honneur qu'ils faisaient tout pour dominer le peuple. Ils ne les servaient pas. Ils ne cherchaient pas à être au service du peuple. Ils cherchaient à les dominer, mes amis. Voilà le contexte. Ils cherchaient à dominer le peuple, de sorte que ce dernier, le peuple d'Israël, eh bien, considérait ces scribes et ces pharisiens comme des éléments indispensables pour leur vie spirituelle. Ça veut dire que s'ils n'étaient pas là, spirituellement parlant, ils étaient morts. OK? C'était là prendre la place de Dieu, en fait. Or, mes amis, Dieu seul est le Père des esprits, comme nous le lisons en Hébreux chapitre 12, verset 9. Je vous invite à vous rendre avec moi en Hébreux chapitre 12 et au verset 9 pour bien considérer cela. L'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 12 et au verset 9. Et là, il nous est dit la chose suivante, en Hébreux 12, verset 9. « D'ailleurs, nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et nous les avons respectés. Ne serions-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie? » Ainsi, la cible de Jésus en Matthieu 23, verset 9, était l'emploi de Père en tant que titre dans l'objectif de se présenter comme le Père des esprits, dans l'objectif de dominer les autres et non pas de les servir. Ce qui était opposé à l'attitude de Paul que nous pouvons considérer en 1 Corinthiens chapitre 4, versets 14 à 17. Rendons-nous en 1 Corinthiens chapitre 4 et considérons du verset 14 jusqu'au verset 17. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 14 à 17. Où il est dit, je n'écris point ces choses pour vous faire honte, mais je vous avertis comme mes chers enfants, car vous auriez 10 000 maîtres en Christ que vous n'auriez pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Point. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon fils bien-aimé, et fidèle dans le Seigneur. Il vous fera ressouvenir de mes voies en Christ et de quelle manière j'enseigne partout dans les églises. Remarquez ici que Paul ne se considère pas comme le père des esprits à qui il a prêché l'évangile, mais comme le père qui les a conduits à Christ. Exactement ce qu'un géniteur physique doit faire avec son fils, l'amener à Christ. Paul se présente comme un père pour ceux dont il a été l'instrument de conversion. Mais il ne prétend pas les dominer. Au contraire, il emploie ce titre non pour présenter l'autorité, mais l'affection qu'il leur porte. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il les appelle au verset 14 « Mes chers enfants ». Et c'est dans cet esprit, mes amis, qu'Élie et Déborah considéraient les âmes dont ils avaient la charge. Et c'est dans ce contexte, après leur avoir dit que Dieu était le Père des esprits, que l'apôtre Paul déclara aux croyants hébreux ce que nous lisons en Hébreux, chapitre 13, verset 17. Hébreux, chapitre 13. L'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 13 et au verset 17. Hébreux, chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non à regret, car cela vous sera préjudiciable. Il y a deux points qui méritent notre attention dans ce verset. Le premier est que ceux qui doivent être l'objet de cette obéissance sont ceux que Paul cite en Éphésiens, chapitre 4, verset 11, c'est-à-dire les apôtres, de manière générale, hein, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Okay? Car c'est par ces dons, qui sont des dons d'enseignement notamment, que Christ va opérer le perfectionnement et l'unification de son corps qu'est l'Église. Par conséquent, l'obéissance dont il est question ici est d'une obéissance à la vérité que sont censées porter ces personnes qui ont ces dons. Ce qui est confirmé par le fait que Paul dit que ces derniers veillent sur leurs âmes. Il n'est pas question ici de ceux qui perdent les âmes en enseignant de fausses doctrines. Non, il est question ici de ceux qui veillent sur leurs âmes, okay? En leur apportant par conséquent la sainte, pure et bonne doctrine et l'évangile tel qu'il doit être annoncé. Et je vous invite, nous n'aurons pas le temps de le considérer à présent, mais je vous invite à considérer chez vous Jérémie 35, l'exemple des Récabites, okay? les fils de Récab. Et à comparer cela avec Matthieu 21, versets 28 à 32, où justement cela est expliqué en fait, ok, que lorsque l'on écoute un serviteur de Dieu qui dit la vérité en fait, eh bien on écoute Dieu. Et l'inverse, c'est pareil. Ne pas écouter un serviteur que Dieu envoie pour annoncer la vérité, eh bien cela revient à ne pas écouter Dieu en fait. Deuxièmement, le terme traduit par « regret » vient de l'hébreu « stenazo », lequel signifie « soupirer »,« murmurer », mais aussi « prier » avec « chagrin »,« gémissement », »,« plainte » et « soupir ». Soupirer, murmurer et prier avec « plainte », »,« chagrin » et « soupir ». « comment des croyants peuvent-ils arriver à causer tant de regrets aux serviteurs de Dieu? Comment des croyants peuvent-ils arriver à faire en sorte que les serviteurs de Dieu arrivent dans un état où ils murmurent, ils soupirent, où ils prient avec chagrin, gémissement et plainte? Ils se plaignent auprès de Dieu, tout comme Moïse le faisait du peuple d'Israël. Dès que Moïse intercédait, mais combien de fois Moïse n'a-t-il pas dit, mais Seigneur, mais ce peuple, si je paraphrase, regarde ce qu'ils font. Comment des croyants peuvent-ils arriver à causer tant de regrets aux serviteurs de Dieu? De la même manière, c'est de la même manière que des enfants peuvent causer du regret à leurs parents. Comme nous l'avons vu en fait, c'est comme nous l'avons vu dans la première application avec les parents, selon la chair. Premièrement, lorsqu'ils refusent de marcher dans la vérité que Dieu a confiée à ses serviteurs de leur enseigner. Pour un serviteur de Dieu, de voir que des gens apostasient, mes amis, c'est terrible. Deuxièmement, lorsqu'ils les maudissent en les méprisant, les haïssant, en parlant d'eux à la légère et en salissant la réputation des serviteurs de Dieu. Lorsque les personnes, lorsque des âmes sur qui des serviteurs de Dieu veillent agissent de la sorte, les maudissant, les méprisant, les haïssant, etc., salissant leur réputation. Et troisièmement, nous pouvons le déduire, lorsqu'ils ne soutiennent pas les serviteurs de Dieu comme il est de leur devoir de le faire. Nous avons là des causes. Et j'aimerais juste faire une petite parenthèse ici. Il y a des gens qui se sont mis à dire récemment qu'il n'aurait pas, si je paraphrase, qu'il n'aurait pas de dégâts ou de considération pour les pasteurs humains, okay? les ministres de l'évangile humain, d'accord? Et que leur seul pasteur, c'est Jésus-Christ. Récemment, quelqu'un a dit ça, et c'est une doctrine, voyez-vous, qui n'est pas nouvelle, et que de temps en temps, des âmes se mettent à adopter parce qu'ils ne veulent pas obéir à Dieu. Ils ont des problèmes avec certains principes de la Bible. Et voyez-vous, lorsque vous voyez quelqu'un qui fait ça, mes amis, qui arrive à ce stade-là, c'est que c'est grave. Et cette personne-là, des gens comme ça sont concernés par ça, en fait. Ils sont pleinement concernés par ça. Enfin, les autorités séculaires, légitimes, ne sont pas exclues par ce commandement. Bien au contraire. En effet, en 1 Pierre, chapitre 2, versets 13 à 18. 1 Pierre 2, 13 à 18. Nous lisons, « Soyez donc soumis à toute haute institution humaine, à cause du Seigneur, soit au roi comme à celui qui est au-dessus des autres, soit au gouverneur comme à des personnes envoyées de sa part pour punir ceux qui font mal et approuver ceux qui font bien, car ceci est la volonté de Dieu, qu'en faisant bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens, comme étant libres. Non pour vous servir de la liberté comme d'un voile pour la malice, mais comme des serviteurs de Dieu. Rendez honneur à tous. Aimez tous les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Et cela va encore plus loin. Domestiques, soyez soumis à vos maîtres en toute crainte, non seulement à ceux qui sont bons et indulgents, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Donc, voilà, cela s'étend. Également, et vous pouvez comparer ce texte-là avec Romains chapitre 13, versets 1 à 7. Alors, j'ai insisté, mes amis, en parlant d'institutions séculaires, d'autorités du moins séculaires légitimes. D'accord ? Légitimes devant Dieu. OK ? Parce que des fois, il y a... il faut savoir qu'effectivement, Dieu reconnaît l'autorité des institutions. Mais du moment que des institutions, des autorités séculaires, eh bien, pratiquent le mal, à ce moment-là, mes amis, honorer Dieu est un devoir qui surpasse le fait de devoir respecter ces institutions. C'est ce que nous lisons, en fait, c'est ce que nous avons lu. OK ? Remarquez qu'il est dit que les gouverneurs, pour punir ceux qui font mal. Ça veut dire que si les gouverneurs font le contraire, ils punissent ceux qui font le bien. Et que vous devez honorer Dieu. Est-ce que vous devez craindre le gouverneur? Non. Vous devez craindre le gouverneur si, effectivement, ce qu'il vous dit est en conformité avec la parole de Dieu. OK? Donc, ça, il faut le clarifier. OK? La liberté religieuse est quelque chose qui est prédominant et obéir à Dieu. Eh bien, c'est obéir à Dieu, même quand obéir aux hommes, obéir aux hommes, eh bien, nous fait devenir des transgresseurs de la loi de Dieu. Donc, voilà le contexte. Tous ceux qui sont gouverneurs, rois, les magistrats, tous ceux qui ont une autorité et qui sont légitimes devant Dieu, nous devons, eh bien, être soumis et obéir, mes amis. Avec cette vue d'ensemble du commandement de la cinquième parole de l'Alliance, nous comprenons mieux pourquoi le non-respect de l'autorité parentale au foyer impacte ou implique le non-respect des serviteurs de Dieu ainsi que le non-respect des autorités civile, légitime. Lorsque vous voyez des gens qui, en société, n'ont aucun respect pour les personnes qui sont revêtues d'autorité, qui sont investies d'autorité, lorsque vous voyez des personnes qui dans l'Église de Dieu et qui se prétendent même être dans l'Église de Dieu et qui n'ont aucun respect pour les autorités que Dieu a placées dans l'Église de Dieu, pour les ministres de l'Évangile, dans ces deux cas-là, mes amis, la raison est parce que ces personnes-là n'ont pas de respect pour leurs parents. Leurs parents sont dans la chair. C'est aussi simple que ça, mes amis. Parce que les parents sont censés éduquer leurs enfants dans les voies du Seigneur. Et les enfants sont censés respecter l'autorité de leurs parents, comme on l'a vu. Et c'est cela, en fait, qui va préparer l'enfant à être soumis aux autorités auxquelles il sera placé quand il sera plus grand, ok? Que ce soit dans la sphère ecclésiale ou dans la sphère civile. Lorsque vous avez des personnes qui disent qui n'ont pas d'égard pour les serviteurs de Dieu, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ces personnes-là sont en train simplement de dire ouvertement qu'elles n'ont pas d'égard à leurs parents, mes amis. Et la suite de l'étude va nous montrer qu'une telle chose n'est pas sans conséquence. On l'a déjà vu d'ailleurs, mais remarquons la suite de l'étude. Considérons à présent la deuxième et dernière partie de cette présentation, la raison du commandement. Remarquez tout d'abord que la cinquième parole de l'Alliance est similaire à la quatrième dans le fait que la raison est lié à une action de Dieu. En effet, dans la quatrième parole de l'Alliance, comme Dieu s'est reposé le septième jour, de même, nous devons nous reposer durant ce jour-là. Et dans la cinquième parole de l'Alliance, cette fois-ci, comme Dieu a promis de toujours prendre soin de nous sur la terre qu'il nous donnera, de même, nous devons toujours prendre soin de nos parents aussi longtemps que ces derniers seront en vie. La quatrième parole se réfère au sabbat de la création. Tandis que la cinquième parole se réfère au repos de la terre promise. Mais que signifie réellement le fait d'avoir ces jours prolongés, premièrement? Et deuxièmement, quelle est cette terre promise? Que devons-nous comprendre par là? Pour répondre à la première question, nous devons d'abord répondre à la deuxième question. Une lecture superficielle de la cinquième parole de l'Alliance nous conduirait à conclure que l'observation du cinquième commandement était, pour les enfants d'Israël, la condition d'avoir une longue vie en Canaan terrestre. Mais résumer la signification du cinquième commandement à cela reviendrait à exclure tous ceux qui ont honoré leurs parents et qui n'ont pas fait partie d'Israël selon la chair, et qui également n'ont pas vécu en Israël, au Moyen-Orient, comme des Juifs, des Israélites l'ont fait depuis l'époque de Josué jusqu'à l'époque de Paul. Tous ceux qui ont observé le cinquième commandement et qui ne sont pas juifs sont donc exclus alors, s'il nous faut comprendre cela, s'il nous faut comprendre qu'il s'agit là de la Jérusalem, de la Canaan terrestre. Force est de constater que la signification est bien plus profonde que cela. En effet, considérons Hébreux, chapitre 11, versets 8 à 10. Et nous entamons ainsi la fin de notre présentation. Hébreux, chapitre 11, versets 8 à 10. Et remarquons que la promesse, comment cette promesse avait été présentée au patriarche. Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10. Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage, et partit, ne sachant pas où il allait. Par la foi, il demeura dans la terre qui lui avait été promise, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Et considérez le verset 16 à présent. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas les appeler leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc, ici, nous voyons que la terre promise, mes amis, que les patriarches attendait, est lié à une nouvelle cité. OK? Et en Apocalypse 21, versets 1 à 3, nous voyons que cette nouvelle cité va avec une terre bien précise. Apocalypse 21, versets 1 à 3, le livre de la révélation de Jésus-Christ, chapitre 21, versets 1 à 3, nous lisons que « Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu. Par conséquent, mes amis, la terre promise qu'Abraham avait en tête, eh bien, était la nouvelle terre qui allait recevoir, eh bien, la cité, la sainte cité de Dieu, la Jérusalem céleste, la Jérusalem céleste qui allait être placée sur la nouvelle terre, la Canaan céleste. Donc, nous répondons ainsi à la question numéro 2 et pouvons à présent répondre à la question numéro 1 qui était, rappelez-vous, que signifie réellement le fait d'avoir les jours prolongés? Considérons Ésaïe 66, verset 22 maintenant, où il nous est parlé de la nouvelle terre. Ésaïe, livre du prophète Ésaïe, chapitre 66 et au verset 22. Et là, nous lisons en Ésaïe 66, verset 22, « Car comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre race et votre nom. » Et le terme hébreu que vous avez ici pour race a également pour signification « semence ». Ok, votre semence. Or, il est intéressant de voir que c'est ce dont il nous est parlé en Ésaïe, chapitre 53. Ok, rendons-nous en Ésaïe, chapitre 53. Et au verset 10, et là, on nous parle, il y a une prophétie qui est, Ésaïe 53 est une prophétie sur le Messie, sous Jésus-Christ. Et vraiment, qu'est-ce qu'il est dit ici? Or, Ésaïe 53, verset 10, « Or, il a plu à l'Éternel de le frapper. Il l'a mis dans la souffrance. Après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, il se verra de la postérité et prolongera ses jours. Et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans ses mains. » Ici, nous avons les mêmes termes qui sont employés dans la raison du cinquième commandement. Il prolongera ses jours, mes amis. Ça veut dire que Christ est concerné par cela. Ou du moins, c'est Christ qui initie cela. C'est grâce à Christ que l'on va avoir cela. Mais qu'est-ce que cela est? Quelle est, au final, cette prolongation de jours? Rendons-nous en Romains, chapitre 6, et lisons du verset 5 à 11. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 5 à 11. Romains, chapitre 6, verset 5 à 11. Où nous lisons, en Romains, chapitre 6, verset 5 à 11, « Car si nous avons été faits une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car en mourant, il est mort une seule fois pour le péché, mais en vivant, il vit pour Dieu. » Ainsi, mes amis, la prolongation de jours dont il est question en Ésaïe 53, verset 10, Et par conséquent, dans la raison du cinquième commandement, est la vie éternelle. La vie éternelle que Christ nous a acquise. Une vie éternelle, eh bien, qui est le signe de la victoire sur le péché. Où justement, le péché ne régnera plus. Et donc, cela a du sens, puisque cela va avec la nouvelle terre, où toute chose sera recréée nouveau. Donc, il s'agit bien de la vie éternelle, mes amis. Voulons-nous de cette vie éternelle? Moi, je le veux. Et si comme moi, vous le voulez, alors honorons celles et ceux que Dieu a investis d'autorité, car c'est en commençant par observer le cinquième commandement que nous serons à même d'observer les autres et donc d'hériter de la vie éternelle. Et oui, mes amis, parce que rappelez-vous, Dieu, l'Éternel lui-même, avait placé au tout début de notre présentation, on l'a vu, c'est Dieu lui-même qui a placé le fait d'honorer son père et sa mère sous le même pied d'égalité que le sabbat. Ça montre bien, mes amis, que c'est par ce commandement-là, en fait. C'est en commençant à observer le cinquième commandement, eh bien, que l'homme, en fait, se prépare à observer les autres commandements. Parce que si vous n'honorez pas votre père et votre mère, qui sont pieux et qui vous instruisent dans la piété, mes amis, vous ne pourrez pas observer le sabbat, et etc. Donc, voilà pourquoi c'est important. Dieu attache beaucoup d'importance au cinquième commandement. Et voilà pourquoi la promesse de la vie éternelle, Dieu l'a attachée au cinquième commandement. Parce que l'éducation des enfants et le respect que les parents, ceux qui ont une autorité légitime, le respect de l'autorité de ces personnes-là, eh bien, mes amis, c'est ce qui nous prépare à pouvoir observer les autres commandements. Alors oui, nous devons commencer par observer le cinquième commandement afin que nous soyons à même d'observer les autres et donc d'hériter de la vie éternelle.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.